Bonjour, c'est Alain, enfin tout le monde dans la région parisienne. Je viens d'écouter les actualités sur TF1 et après quelques informations sur le froid, c'est de rigueur, c'est le cas de le dire. Une bonne nouvelle, nous apprend-on, le gaz va baisser en avril. Alors faites comme moi, arrêtez de vous chauffer maintenant pour profiter de l'aubaine en avril pour allumer les chauffages. Voilà, c'était... Ah, c'est un journaliste qui présentait, je crois que c'était un animateur, il devait y avoir une différence.
Ouais, bonjour, c'est Céline Le Temps, je suis à Saint-Lô. La manifestation pour accueillir M. Sarkozy s'arrête. Et à peine M. Sarkozy est-il parti déjeuner en grande pompe, que les CRS sont chargés, plusieurs manifestants ont été arrêtés, menottés. Et donc la manifestation se dirige vers le commissariat. Vive la liberté, au revoir.
Salut la Bastille, j'y suis en direct de la manif de Lille, 1500 personnes qui dépendent de la convention collective de 1966, des secteurs social et médico-social, avec des très nombreux salariés en grève aujourd'hui pour défendre notre convention. Les employeurs depuis un mois, le syndicat employeur depuis un mois, nous ont proposé un texte dans lequel il prévoit de nous supprimer des congés, de nous supprimer du salaire, d'introduire le service minimum, etc., etc. Le mouvement est à son début aujourd'hui, les salariés sont mobilisés malgré le froid, et on continue. Ciao.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Bonjour, auditeurs, mes frères, bonjour, Daniel Mermet. Et surtout, un immense merci pour cette si belle réémission sur le cercle des parents. Au moment où tant d'enfants, tant de jeunes gens sont massacrés ou abattus à Gaza, cette émission est malheureusement toujours au cœur de l'actualité. Et je dois le dire, j'ai éprouvé une poignante émotion à écouter ces pères palestiniens, ces pères israéliens, malgré leur immense douleur d'avoir perdu leur enfant dans la guerre ou dans un attentat, se rapprocher, se parler, tenter d'agir ensemble pour éviter à d'autres parents de connaître un jour le malheur qui est le leur. Merci à tous.
Oui, salut Daniel, salut à tous les AMG. Voilà, j'ai entendu hier sur France Inter que l'armée israélienne utilisait des bombes au phosphore et au tungstène, tout ça sous prétexte que ce ne sont pas des armes illégales en vertu du droit international. Voilà, mais n'est-ce pas des armes de destruction massive? Alors, qui sont les terroristes? Voilà, écoute, c'est Jean-Michel d'Angoulême. Allez, bonne continuation à tous. Salut.
Oui, André de Dijon. Voilà, je voudrais réagir à ce qu'a dit le Quotidien, petit journal pour enfants, seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours, comme il s'intitule, à propos de 5 questions pour comprendre la guerre à Gaza. C'est quand même important de voir comment, éventuellement, on présente les événements de Gaza aux enfants. Indépendamment du fait que dans cette double page, le seul dessin montre des roquettes qui vont dans un nombre aussi important d'un sens que dans l'autre, donc ils font croire que la guerre est aussi violente dans un sens que dans l'autre. Il y a un article très précis qui dit que la majorité des morts palestiniens sont des militaires du Hamas et une victime sur 4 est un civil, donc il n'y aurait que 20% de civils. Je pense que d'après tout ce qu'on sait actuellement, quand même cette information est très largement déformé, pour ne pas dire plus, et qu'il est important quand même de faire savoir que ce quotidien est un peu litigieux. Je regrette parce que j'ai abandonné mon fils, je l'ai abandonné à cette information et à ce journal, et je trouve ça assez déplacé, cette manière de présenter les événements. Hein. Il s'agit du quotidien, et ce numéro concerné, c'est celui du mercredi 7 janvier 2009. Voilà. Je vous remercie quand même de signaler que ce journal ne présente pas correctement les événements de Gaza, même si je sais que c'est pas évident à présenter. Allez, continue, Mermet, c'est bon.
Oui, bonjour, c'est l'association Les Arts du Colmar qui organise la projection de Chomsky et compagnie de Daniel Mermet et Olivier Hazan, qui sera présentée le samedi 17 janvier à 20h au cinéma Le Colisée de Colmar en présence du producteur Boris Perrin. Voilà, pour info, merci de venir nombreux. Au revoir.
Bonjour à tous. Le prochain repère de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, aura lieu à 19h au bar Pizzeria, 14 rue du Capitaine Dreyfus. Toujours une info concernant Montreuil, projection du film Chomsky et compagnie au cinéma Le Méliès, métro Croix de Chaveau, le jeudi 29 janvier à 20h30, suivi d'un débat animé par Attaque, les Amis de la Terre. Qu'on se le dise. Ciao.
Et voilà, eh bien, j'animerai ce débat à Montreuil. Et puis d'autres débats aussi et projections de Chomsky et compagnie un petit peu partout. À travers l'Hexagone, par exemple samedi 17 au cinéma Les Lumières de la Ville à Millau. J'animerai le débat qui suit le film en compagnie de José Bovet. Et le lendemain, ce sera à Albi, au cinéma Latanor à Albi. La séance sera à 14h30 et à l'issue de la séance, débat que j'animerai. Vous pouvez aller sur les Mutins de Pangée, le site ou bien sur labas.org, c'est plus facile, labas.org, la-bas.org, et vous avez toutes les projections du film et les animations, les débats qui suivent avec les gens de l'équipe, Olivier Azam, moi-même ou bien d'autres, ou bien des profs de philo, etc., qui ont une connaissance de Chomsky. Merci à tous pour ces messages. Cet auditeur s'inquiétait effectivement de la difficulté à présenter simplement ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est pas facile, c'est tellement passionnel et tellement fou ce qui se passe là qu'on a du mal à garder son sang-froid. Mais on va essayer de le garder aujourd'hui avec l'équipe du Monde Diplomatique et notamment avec Alain Gresh qui va essayer de nous expliquer son point de vue et la chronologie de ce qui se passe à Gaza. Et puis l'équipe du Monde Diplomatique, c'est-à-dire Serge Halimi, Anne-Cécile Robert, Maurice Lemoine, ainsi que Jeannette Abel et Alain Garrigou parleront successivement de l'argent, Serge Halimi, Anne-Cécile Robert de l'argent des immigrés, Maurice Lemoine et Jeannette Abel parleront de Cuba, Jeannette fera les 50 ans, évidemment. C'est 50 ans, cette révolution. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Et Maurice Lemoine parlera de tous les coups tordus montés par la CIA pour démolir Cuba. Ce sera un autre son de cloche de ce qu'on entend partout sur l'histoire de Cuba. Et puis Alain Garrigou, prof de politique, il dira lui-même comment il se qualifie, parlera de tous ces politologues, vous savez que vous avez à l'antenne à longueur de temps, les radios, les télévisions, partout, ces spécialistes de Sciences Po ou d'ailleurs, mais enfin qui ont des références intimidantes et qui nous disent des choses dont ils ne savent à peu près rien. Voilà, c'est donc, vous avez compris, l'émission mensuelle avec le Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, c'est les parents d'élèves de l'école de Livernon dans le Lot. Nous occupons toujours le bureau de la directrice, nous résistons toujours au fichage de nos enfants dans bas élèves et on vous appelle à nous soutenir le mercredi à 14h devant l'école. Résistez avec nous pour la liberté des enfants. Nous avons déjà le soutien de la LDH de Martel, de la FCPE locale. Il y aura aussi des collectifs anti-bas élèves de la région Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne. Ici, c'est le Lot, un petit village qui résiste. À bientôt, merci.
Salut Daniel et chers auditeurs là-bas si j'y suis. Les professeurs de technologie de collège revendiquent. On nous impose de nouveaux programmes d'enseignement sans nous donner les moyens de les appliquer. Et nous, on demande juste un truc complètement insensé, pouvoir faire du travail de qualité. Il faut savoir que la technologie au collège participe à la valorisation des élèves en difficulté. Alors, un peu comme les RAZED, on a fait notre petite pétition en ligne, www.petition-technologie.fr, www.petition-technologie.fr. Merci et bonne année, Charles à Bordeaux.
Le sommaire du Monde Diplomatique avec notre éditorial Serge Halimi qui s'appelle « L'argent ».
L'objectif de mon éditorial était quand même de m'interroger sur ce retour à l'État. effectivement, dont on fait des gorges chaudes. On voit partout les plafonds de déficit crever très allègrement, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, etc. Et on peut se poser la question de savoir qui est cet État et à quoi sert cet argent.
Alain Grèche, est-ce que cette guerre peut être gagnée, donc ?
Ah non, je pense qu'elle ne peut pas être gagnée. Elle ne peut pas être gagnée dans la mesure où le but de cette guerre, c'est de casser la volonté politique des Palestiniens et l'esprit de résistance. Et ça, ils n'arriveront pas.
On continue de feuilleter le sommaire de ce Monde diplomatique du mois de janvier 2009 avec vous, Jeannette Abel.
Eh bien, il y a, à une toute petite échelle, mais très significative, l'émergence de quelque chose de nouveau. Et c'est quoi ? C'est que pour la première fois, on commence à discuter de qu'est-ce qui a marché à Cuba, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer.
Maurice Lemoine, un retour en arrière, cette fois-ci sur d'autres Cubains.
C'est une histoire folle, c'est quasiment un roman d'espionnage.
Autre article sommaire de ce numéro de janvier du Monde diplomatique, c'est un article que vous avez coécrit avec Jean-Christophe Servent, vous, Anne-Cécile Robert.
C'est vrai qu'on est dans des situations absurdes où on a par exemple beaucoup de médecins africains dans les hôpitaux européens et nous, en échange, on envoie des médecins, des ONG pour aller soigner les Africains.
On continue ce parcours avec vous, Alain Garrigou, qui avait signé la dernière page, politologue du Prince. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques vous-même et vous faites une attaque en règle contre eux comme étant des commentateurs... tout juste au-dessus du niveau du café du commerce.
Et ben voilà, c'est tout ça qui va être développé dans cette heure que nous allons passer ensemble avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from...
On se retrouve pour ce premier numéro de janvier 2009 du Monde diplomatique avec une équipe presque au complet et pour commencer en parlant d'une situation en tout cas qui n'est pas mentionnée dans le Monde diplomatique de ce mois-ci. C'est, vous avez été pris de court en termes de bouclage par l'opération sur Gaza. Et pour commencer, Alain Grèche, je voudrais d'abord vous demander comment on pourrait résumer la chronologie de ce qui s'est passé puisque c'est déjà aujourd'hui un motif de débat entre c'est un tel qui a commencé les premiers, nous ne faisons que nous défendre. Quelle est la chronologie plutôt ?
Mais c'est vrai que c'est très difficile de fixer la chronologie parce qu'on peut prendre des dates différentes. On peut prendre une date immédiate qui est de dire il y avait un cessez-le-feu qui a été négocié sous l'égide de l'Égypte entre Israël et le Hamas qui est entré en vigueur le 19 juin. Ce cessez-le-feu a très bien fonctionné, comme le reconnaît le site du ministère des Affaires étrangères israélien et des rapports des services de sécurité israéliens qui disent qu'en juillet, août, septembre, octobre, il y a eu très très peu d'attaques à la roquette en venant de Gaza, une à deux par mois, que c'était des groupes dissidents et que le Hamas les avait arrêtés. Donc le cessez-le-feu marchait très bien jusqu'au moment où, dans la nuit du 4 au 5 novembre, il y a eu une opération israélienne à l'intérieur de Gaza, tuant 6 militants du Hamas, et à ce moment, on est rentré dans l'escalade. Donc, factuellement, je veux dire, c'est Israël qui a cassé le cessez-le-feu. D'autant que Israël n'a jamais mis en œuvre un autre aspect de ce cessez-le-feu, qui était de dire, il y a le cessez-le-feu à Gaza, mais en même temps, il faut ouvrir les points de passage entre Gaza et Israël. Or, ces points de passage ont été petit à petit fermés, aggravant une situation qui est déjà terrible. C'est un des territoires, comme vous savez, les plus surpeuplés du monde. Il y a 1,5 million de personnes, dont 80% de réfugiés, qui vivent dans des camps avec des conditions horribles. La moitié de la population vit de l'aide humanitaire. Et cette aide humanitaire a été petit à petit bloquée. Donc, on avait une population asphyxiée. Donc, ça, c'est la première chronologie. La deuxième date qu'on pourrait prendre, c'est juin 67. C'est, il faut quand même rappeler que la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est sont des territoires occupés depuis 40 ans. Qu'il y a eu 10 résolutions du Conseil de sécurité, des dizaines de résolutions de l'Assemblée générale, et que Israël a toujours refusé de se retirer des territoires occupés. Donc, je crois, quelle que soit la chronologie, il faut rappeler que ce qui provoque la résistance, c'est l'occupation. C'est l'occupation qui est à l'origine. Et enfin, rappeler un dernier élément sur le Hamas. Le Hamas est né au début de la première intifada. Il est le résultat de l'occupation. D'ailleurs, dans les années 80, les services de renseignement israéliens avaient aidé les frères musulmans qui ont donné naissance au Hamas en espérant faire contrepoids à l'OLP. De même que le Hezbollah...
Ça s'appelle l'autorité de Yasser Arafat.
Voilà. De même que le Hezbollah, il faut le rappeler, est né de l'occupation israélienne du Liban. Donc c'est évident que plus la situation dure, plus les forces de type OLP apparaissent incapables de donner au peuple palestinien ce qu'il veut, c'est un État, plus les discours extrémistes vont trouver un aliment. Un ami journaliste israélien me disait, nous avons refusé l'OLP, nous avons eu le Hamas, nous refusons le Hamas, nous aurons Al-Qaïda à la fin. Et c'est évident. C'est évident qu'une situation de désespoir total va alimenter l'extrémisme.
Mais alors, sur les opérations en cours en ce moment, chaque jour voit le décompte macabre s'empiler, on dépasse les 800, bientôt 900. Chaque jour, les médias sont davantage tenus à l'écart, c'est-à-dire qu'il y a, à part des témoignages venant de sur place de journalistes palestiniens, peu d'images et peu d'échos factuels et recoupés sur les conséquences de ces bombardements. Comment on peut voir ce qui est en train de se passer ?
D'abord, sur le journalisme, je crois qu'il faut rappeler quand même, parce que c'est quand même extraordinaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un conflit où les journalistes sont interdits d'accès au territoire. Je veux dire, Israël, pays démocratique dans lequel il y a effectivement une liberté de la presse, masse les journalistes à la frontière en leur disant « vous regardez de loin, soi-disant pour votre sécurité ». Je dirais, il y a des journalistes à Gaza, notamment les journalistes d'Al Jazeera en arabe et en anglais, dont il faut saluer réellement et le professionnalisme et le courage, et qui envoient beaucoup, beaucoup d'images. Il y a aussi beaucoup d'images qui arrivent par les portables. Mais je pense qu'en partie, le gouvernement israélien a peur qu'on voit ce qui se passe sur le terrain. Parce que vous dites, il y a eu 900 morts, la Croix-Rouge, tous les secours disent qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. Donc, en fait, on veut interdire l'accès aux images, même si, en fait, aujourd'hui, c'est impossible. Et je pense qu'Israël est en train de perdre la guerre des images. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est de savoir, il y a, si vous voulez, l'armée israélienne a tiré les leçons de la guerre du Liban au plan tactique. C'est-à-dire qu'ils ont été tactiquement, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. D'ailleurs, on le voit en nombre de victimes, il y a 10 soldats israéliens qui ont été tués. Mais ils n'ont pas tiré les leçons stratégiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir quels sont leurs buts de guerre. Et ils ne sont pas d'accord avec eux. Il faut savoir aussi qu'un des buts de guerre, c'est les élections. Je veux dire, le 10 février, il y a les élections israéliennes, et Barak pense que le Parti travailliste qui était à la dérive va gagner de cette opération militaire. Vous savez, il y a un autre dirigeant travailliste qui a eu le même calcul, c'est en 1996, Shimon Peres, après l'assassinat de Rabin, a fait l'opération Raisin de la colère, je crois, au Liban. Il est intervenu massivement au Liban, et ça a amené Netanyahou au pouvoir. Et là, je pense malheureusement que ça risque d'être la même chose. Et on peut se dire d'ailleurs, si la gauche et le centre israélien font cette politique, elle va être la politique de Netanyahou. Donc il y a cet aspect, si vous voulez, électoral.
Il y a que ça peut être une guerre aussi électoraliste, ça peut être aussi, c'est un des facteurs.
Ah oui, c'est incontestablement un des facteurs. Il y a un autre facteur, c'est qu'il faut pouvoir présenter un bilan de victoire. Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de bilan de victoire. C'est-à-dire aujourd'hui, l'alternative, c'est soit le Hamas reste au pouvoir, soit Israël occupe. L'autorité palestinienne est très discréditée, elle est plus présente à Gaza. Donc, si le Hamas reste au pouvoir, je veux dire, ça sera présenté à juste titre comme une défaite militaire nouvelle d'Israël. Enfin, politico-militaire, c'est pas, il n'y a jamais de défaite militaire simplement. Ça sera une défaite politico-militaire. J'ai tendance à penser, mais bon, que pour ces raisons, l'armée israélienne va essayer d'entrer dans les villes et que là, ça risque d'être un carnage. Tout le monde dit Israël va perdre peut-être un certain nombre d'hommes, mais surtout il va y avoir des centaines et des milliers de Palestiniens tués.
Est-ce que cette guerre peut être gagnée donc ?
Ah non, je pense qu'elle ne peut pas être gagnée. Si vous voulez, elle ne peut pas être gagnée dans la mesure où le but de cette guerre, c'est de casser la volonté politique des Palestiniens et l'esprit de résistance. Et ça, ils n'arriveront pas. C'est-à-dire, le problème, c'est que le but de cette guerre, ce n'est pas d'arriver à un accord négocié. S'ils voulaient un accord négocié, ils auraient négocié avec Abou Mazen, qui est un modéré, qui était prêt à un certain nombre de compromis réels, et on aurait eu un accord. Je veux dire, l'idée, c'est si on arrive à vraiment casser l'esprit de résistance palestinienne, vous savez, cette idée, si les Arabes ils comprennent que la force, si on leur tape dessus, ils vont finir par comprendre, à ce moment, on trouvera une solution provisoire dans laquelle l'Égypte aura un contrôle sur Gaza, la Jordanie sur une partie de la Cisjordanie, et en fait, l'occupation viendra. Mais je pense que ça, c'est un objectif irréalisable.
Nous reprenons le sommaire du monde diplomatique avec votre éditorial, Serge Hanimi, qui s'appelle « L'argent ». Avant d'en venir à cet article, je voulais quand même évoquer une petite crainte que j'ai quant à l'avenir du monde diplomatique, puisque là, Barack Obama va être élu, donc ça fait déjà George Bush en moins et l'administration Bush en moins a critiqué au long de vos colonnes. Et puis, une autre déclaration qui date de la semaine dernière de notre président bien-aimé, et je vous donne cette phrase, « Le capitalisme purement financier, c'est un système d'irresponsabilité, un système amoral, c'est un système où l'argent va à l'argent, où le travail est déprécié. » Si même Nicolas Sarkozy lit le Monde diplomatique et répète les éditos du Monde diplomatique, où va-t-on ?
Oui, ça, il est certain que nos idées sont au pouvoir. Il n'y a qu'à regarder autour de nous la situation sociale pour le constater tous les jours. Non, on est effectivement dans un contexte qui est marqué par la déroute idéologique du néolibéralisme, mais faute d'alternative, ce néolibéralisme peut en quelque sorte, même en déroute idéologique, continuer à exercer le pouvoir et pratiquer peu ou prou les mêmes politiques. Et l'objectif de mon éditorial était quand même de m'interroger sur ce retour à l'État, effectivement, dont on fait des gorges chaudes. On a évoqué l'énormité des déficits publics américains, mais on voit partout les plafonds de déficit crever très allègrement, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, etc. Et on peut se poser la question de savoir qui est cet État et à quoi sert cet argent. Parce que si l'État, c'est comme aux États-Unis, un secrétaire au Trésor qui est un ancien dirigeant de la banque Goldman Sachs, en l'occurrence Monsieur Paulson, qui succède lui-même à un autre secrétaire d'État au Trésor dans l'administration Reagan, Monsieur Rubin, on peut comprendre qu'un certain nombre de mesures qui auraient frappé les banques n'aient pas été prises en temps voulu. Lorsqu'on voit que Monsieur Blair maintenant travaille pour la banque JP Morgan, on peut comprendre aussi qu'un certain nombre de dispositions réglementant les banques britanniques n'aient pas été prises.
Et vous, je précise, vous dites qu'il est payé plus $1 million d'euros à temps partiel.
À temps partiel, parce qu'il fait beaucoup d'autres choses, notamment il contribue à la paix au Proche-Orient, même si on indique qu'il ne s'est encore jamais rendu à Gaza depuis qu'il a eu cette responsabilité au Proche-Orient. J'indique aussi, je donne l'exemple de Schröder, donc, qui travaille maintenant pour une filiale de Gazprom. Donc il y a un pantouflage permanent, mais au plus haut niveau, entre public et privé, qui permet de comprendre que parfois, même quand le public débourse beaucoup d'argent, ça ne pénalise pas, au contraire, le privé, quelles que soient ses responsabilités dans la situation face à laquelle nous nous trouvons. Et y a une autre chose qui m'a fait un peu réagir, c'est, on parle de George Bush qui va donc quitter la Maison Blanche, donc on peut s'interroger sur son avenir. Or, il a été très franc sur son avenir, puisqu'il a déclaré « Plus tard, donc, je donnerai quelques discours, rien que pour remplir mes vieux coffres. Je ne sais pas combien mon père réclame, c'est de 50 à 75 000 dollars par conférence, et Clinton gagne lui aussi beaucoup d'argent. » On a donc un projet très éthique, très généreux, de contribution au bien public, qui m'a rappelé une phrase, mais celle-là prononcée à plusieurs reprises par Nicolas Sarkozy.
Votre lecteur, donc ?
Mon lecteur, qui a beau être indigné par le capitalisme financier, les inégalités, etc., expliquait ainsi ses projets. Alors moi, en 2012, j'aurai 57 ans, je me représente pas, et quand je vois les milliards que gagne Clinton, moi je m'en mets plein les poches, je fais ça pendant 5 ans, et ensuite je pars faire du fric comme Clinton, 150 000 euros la conférence.
Alors, ça c'est une citation.
Ça c'est une citation, enfin, elle a été publiée dans un magazine, il y a un journaliste du Monde qui a publié une citation un peu identique, et à plusieurs reprises, on a entendu des propos de ce genre. Et il est évident qu'on doit réfléchir en se demandant quel type de politique ces hommes d'État vont mener quand leur perspective, une fois qu'ils quittent la politique, c'est de servir des grands groupes privés et, entre guillemets, de s'en mettre plein les poches. Il y a une vraie question qui est posée et il est évident que la démarche des hommes que j'ai cités n'a vraiment plus rien à voir avec celle de De Gaulle ou avec celle de Mendès France, qui avait un souci du bien public. Et que mon objectif, ce n'est pas naturellement de dire les hommes politiques tous pourris, mais il y a des comportements qui sont rendus publics maintenant avec une certaine ostentation. Je ne dis pas qu'avant ils n'existaient pas, mais à mon avis ils existaient sur une moindre échelle. Et en tout cas, on avait au moins la pudeur de les dissimuler. Là maintenant, l'idée qu'un projet d'avenir, ce soit de passer par la case politique pour après obtenir un maximum sur la case conférence et la case pantouflage dans le privé, pose toutes sortes de problèmes. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, vous avez peut-être lu dans Le Monde cette tribune de Renaud Dutreil, qui a été ministre du Commerce, qui est devenu maintenant le numéro 1 de LVMH, le groupe de luxe aux États-Unis, et qui publiait une tribune qui était un chant d'amour à Bernard Arnault, le patron de LVMH, en disant « il faut soutenir au maximum le Bernard Arnault ». parce qu'en fait, il se bat pour nous, il se bat pour la France. Donc vous avez là encore un homme politique qui accepte d'être en quelque sorte l'employé docile de la principale fortune de France. On voit moins souvent des ministres des Finances qui deviennent conseillers d'un grand syndicat. Et ça explique peut-être certaines politiques économiques et sociales. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est une chose à conserver à l'esprit.
D'ailleurs, vous avez la rigueur de préciser que notre ancien ministre des Finances, Thierry Breton, qui maintenant travaille lui aussi dans le privé, vous donnez la liste de ses émoluments, précise qu'il a renoncé au parachute doré par souci moral. Donc le moral est bien possible, c'est ça ?
Voilà, il a renoncé au parachute doré, mais enfin, il vient de déclarer qu'il allait recevoir un salaire fixe de 1 200 000 euros, une part variable pouvant aller jusqu'à 120% du fixe à objectif atteint que j'ai souhaité, en fait plafonner à 100%. À cela s'ajoute l'attribution de 233 000 stock options fin 2009, fin 2010 et fin 2011. Mais il ajoute, parce que c'est ça son sacrifice, j'ai demandé à ne pas bénéficier de parachute doré en cas de cessation de mes fonctions. Mais tout le reste, il le conserve. Et je relève que comme il a été ministre de l'économie et des finances au moment où on a, en quelque sorte, décidé de ce bouclier fiscal, on peut imaginer qu'il en sera un des principaux bénéficiaires.
Autre article sommaire de ce numéro de janvier du Monde Diplomatique, c'est un article que vous avez coécrit avec Jean-Christophe Servan, vous, Anne-Cécile Robert, au sujet des convoitises sur l'argent des immigrés. Un chiffre, ne serait-ce que pour introduire ce débat, 300 milliards de dollars par an sont virés, transférés par les immigrés jusqu'à leur pays d'origine.
C'est une manne considérable pour la totalité des immigrés dans le monde. Et c'est en train de faire changer un petit peu le discours qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur les immigrés qui sont souvent vus de manière négative. Donc cette manne considérable attire l'attention des organismes financiers internationaux. Aujourd'hui, on se dit qu'on pourrait mettre l'argent des immigrés au profit du développement. Et on voit des rapports de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, qui essaient de chiffrer et de théoriser tout ça. Et ils le font dans un contexte, il faut quand même le rappeler, de baisse de l'aide au développement. Donc ça serait une forme de substitution au désengagement des États. Ils le font aussi dans le cadre de l'échec des politiques, enfin de contrôle d'immigration. Et troisièmement, dans le cadre de l'échec des politiques néolibérales en Afrique. C'est-à-dire ces politiques qui sont menées depuis 20 ans ont souvent aggravé le quotidien des gens.
Parce qu'elle soumettait la question de la dette et de l'aide internationale à des réformes, toujours dans le sens d'une plus grande libéralisation, d'une privatisation.
Oui, il n'y avait jamais d'aide désintéressée. L'aide était toujours conditionnée, elle l'est toujours d'ailleurs. Et conditionnée à quoi ? À l'adoption de politiques néolibérales, à des privatisations, à du libre-échange. Et ça continue. C'est pour ça que ce changement de discours des organismes financiers internationaux, il est assez hypocrite, parce qu'on veut trouver de l'argent, mais on continue d'envoyer en Afrique les médicaments qui tuent, le libre-échange et le libéralisme. Donc c'est une situation un peu absurde, puisqu'on n'a pas de redéfinition des politiques. Et on peut s'interroger aussi sur l'efficacité de cet argent qui dépasse très largement l'aide au développement. Dans certains pays, c'est 200% de l'aide au développement, dans des pays comme le Sénégal, comme le Ghana. Mais quelle est l'efficacité concrète de tout ça? Parce que de l'argent arrive dans les pays africains et certaines communautés ne pourraient pas survivre sans cet argent. Ça donne rarement lieu à des investissements productifs. On part au plus pressé, on répond à des besoins immédiats de consommation, etc. Mais ça ne va pas dans des circuits de long terme qui pourraient permettre de redresser les pays. Donc on ne fera pas l'économie d'une réflexion globale sur les politiques qui sont menées en Afrique et sur le sens qu'on veut donner aussi à l'immigration. Parce que là, on est dans des discours assez incohérents. D'un côté, on dit aux immigrés, restez chez vous, rentrez chez vous. Mais dans le même temps, on dit, on va mettre la main sur votre argent.
Et puis, il y a aussi le débat sur toute l'immigration choisie qui a pour résultat de prendre tous les cadres, toutes les têtes pensantes des pays en voie de développement pour les faire travailler chez nous.
Mais c'est vrai qu'on est dans des situations absurdes où on a par exemple beaucoup de médecins africains dans les hôpitaux européens. Et nous, en échange, on envoie des médecins, des ONG, pour aller soigner les Africains. Et pendant ce temps-là, nos infirmières migrent au Canada parce qu'il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux publics. Donc tout ça ne tourne pas rond et invite certainement à réfléchir à de nouveaux rapports mondiaux.
D'autant que vous parlez de rapports mondiaux, il y a des acteurs mondiaux qui savent tirer un profit très important de ce même transfert d'argent que vous payez des immigrés vers leur pays d'origine. Ce sont des sociétés comme Western Union et qui s'occupent, elles, de transferts de fonds et qui ne manquent pas à cette occasion de se graisser la patte.
Oh, il y a des enjeux financiers énormes derrière ça. La Banque africaine de développement a calculé que sur 100 dollars transférés, il y a 19 dollars de frais de transfert au profit de compagnies comme Western Union. Donc c'est énorme.
L'argent qui reste déjà dans les pays riches.
Voilà, donc l'argent retourne, mais c'est comme pour l'aide au développement. On s'est aperçu grâce à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, que l'argent qui est donné sous forme d'aide, en fait, il repart chez les donateurs sous la forme d'achats de biens, d'ordinateurs, de matériel, etc. Donc, à chaque fois, l'argent, il y a plus d'argent, finalement, qui part du sud vers le nord que le contraire. Donc, voilà, on est dans une économie et une géopolitique assez absurde. J'arrête pas de répéter absurde, mais parce qu'au bout d'un moment, on ne peut être que sidéré de voir comment ce système continue. La vie des gens s'est dégradée, c'est pour ça que l'émigration, la tentation de l'émigration se poursuivra. Et il ne faut pas se tromper. Alors c'est le village qui s'organise pour envoyer un jeune en Europe qui se cotise. Parce que c'est le seul moyen d'aider le village sur place. Il y a des mamans qui disent à leur fils de partir, quel que soit le danger. Et le danger, au point où on en est, le danger n'empêche pas les jeunes de vouloir partir. Parce que de toute façon, ils pensent qu'ils n'ont aucun espoir chez eux. Donc tant qu'on n'aura pas repensé les mécanismes, les flux économiques, l'organisation du commerce à l'échelle de la planète, on aura cette pression migratoire jusqu'à l'absurde et jusqu'à la plus grande cruauté quotidienne.
La base de Suisse. Escuchen la base de Suisse.
Tengo una forma más de adornarte la vida. Buena sombra te cobija si es que a rebelde te arrimas.
Si oyes este consejo, te voy a ver en chancleta. Pues un clavo del destino ponchará tu bicicleta.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
Oye, rebelde.
Buena sombra te cobija si es que a rebelde te arrimas.
On continue de feuilleter le sommaire de ce Monde diplomatique du mois de janvier 2009 avec vous, Jeannette Abel, qui revenait d'un voyage à Cuba sur fond de cinquantenaire et sur quelle perspective, quel avenir pour ce pays, toujours corseté entre crise économique, augmentation des inégalités, manque de débat, institutions sclérosées. Et vous décrivez justement comment dans une frange de la société cubaine, il y a ce débat sur comment sortir de l'impasse dans laquelle on est actuellement. Mais j'ai l'impression que pour une grande majorité, tout espoir de changement est un peu suspendu à l'agonie de Fidel Castro.
Oui, on a une situation compliquée parce qu'il est là sans être là. Oui, il n'est plus là tout en étant là, pour le dire plus précisément. Il est malade, il n'apparaît pas, mais il intervient par le biais de réflexions. Et ces réflexions, entre guillemets, ça s'appelle comme ça dans la presse, elles sont répercutées à la télé. Il arrive qu'on lise intégralement à la télévision les réflexions de Fidel, qui par ailleurs paraissent dans la presse officielle. Il faut rappeler quand même qu'on est dans une presse assez monolithique, qui est la presse du Parti communiste cubain, parti unique. Et on lit ses textes à la télévision et ses réflexions. Il a toujours cet axe anti-impérialiste, radical et révolutionnaire, mais on sent bien que derrière cela, il y a une opposition à tout changement. Et même si Raoul Castro est quelqu'un qui est très lié au commandant en chef, président jusqu'alors, il est quand même arrivé dans une situation très compliquée, très dure. Et pour les Cubains, on sent qu'il y a un changement. Et alors, ce changement est perceptible à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans la population, c'est la première fois que j'entends des gens se définir comme raoulistes ou fidélistes. Et de manière évidente, ça n'a pas le même sens d'être raouliste ou fidéliste. Quand on est raouliste, c'est qu'on est pour des changements, on est pour garder un certain nombre d'acquis de la Révolution, mais on pense qu'il faut changer, d'introduire des espaces de marché dans la société et de capitalisme, en pensant que c'est ça qui va redynamiser l'économie. Et quand on est fidéliste, c'est qu'on ne veut pas tellement changer les choses. En tous les cas, on est très inquiet à la perspective de changement. Et d'autre part, outre ces deux positionnements qui sont présents, eh bien, il y a, à une toute petite échelle, mais très significative, l'émergence de quelque chose qui est important, quelque chose de nouveau. Et c'est quoi? C'est que pour la première fois, on commence à discuter, 50 ans après, de qu'est-ce qui a marché à Cuba, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer. Je dis, je répète, c'est à une petite échelle, mais cette discussion a lieu sur Internet, d'une part, elle a lieu parmi les jeunes, des jeunes étudiants, des intellectuels, et parmi des militants. Et là, grande surprise, parce que c'est la première fois, on tire un bilan critique de ce qui a été fait, notamment à l'époque de l'Union soviétique, on tire un bilan critique de la censure telle qu'elle a régné dans les années 70, on tire un bilan critique du bilan économique, la situation économique est extrêmement mauvaise. Évidemment, on se félicite de l'indépendance nationale, de la souveraineté qu'on a réussi à maintenir pendant 50 ans, également d'un certain nombre de conquêtes sociales, bien qu'elles tendent à se détériorer, mais on cherche une autre voie. Et on dit, bon, on sait trop, on a eu une société, un socialisme qui a quand même pas marché, trop centralisé, trop bureaucratique. Dans quelle direction faut-il aller maintenant? Et là, il y a une interaction avec l'Amérique latine, très importante, avec ce qui se passe au Venezuela, avec ce qui se passe en Bolivie, avec les expériences de démocratie participative. Je ne dis pas, c'est minoritaire, hein, parce qu'il s'agit bien sûr de... On imagine, les gens qui écrivent des articles ne sont pas des gens qui sont... un reflet de la population en son ensemble. Mais
c'est vrai que la population aujourd'hui, elle n'a qu'un seul souci principal, c'est de joindre debout.
Voilà, la population a un seul souci, c'est de survivre, parce que, je le répète, après les cyclones, avec une crise économique prolongée, maintenant, ça ne va pas bien. Parce qu'il ne faut pas croire que tout d'un coup, tout le monde est en train de discuter, de réfléchir au lendemain qui chante, ce n'est pas ça du tout. Mais... c'est très significatif quand même que l'on ait maintenant ce genre de bilan du socialisme réel tiré de manière aussi radicale dans certaines revues, en particulier une revue qui s'appelle Temas, mais pas seulement celle-là, et on les trouve noir sur blanc. Et on trouve en plus des gens maintenant qui stockent chez eux, c'est le cas d'un vieux militant communiste que j'ai rencontré, qui s'appelle Pedro Campos. Quand on va chez lui... et qu'il habite dans des conditions très misérables, il y a un stock de textes qu'il a produits qui sont des propositions pour le prochain congrès du PC. Et les gens défilent sans arrêt. Moi, je suis arrivée, alors il m'a dit « pas d'interview, je refuse toute interview ». D'accord, je voulais le faire pour le journal, le citer, mais voilà ce que j'ai écrit. Et alors, il y avait... ça dépassait le niveau de la table, et les gens passaient sans arrêt à récupérer les copies de ces propositions qui s'appellent propositions programmatiques pour le congrès du PC cubain qui va avoir lieu cette année en octobre. Donc on a une espèce de bouillonnement et de foisonnement à petite échelle. Et qui est, alors, dernière chose, un dernier mot, qui est aussi alimenté par un élément très important, c'est que les courants qui existaient auparavant, favorables au retour au capitalisme, il n'y a que l'économie de marché qui marche, qui fonctionne, donc d'une façon ou d'une autre, mais avec la crise économique et financière mondiale aujourd'hui, ce courant-là, il en a pris un bon coup. Et donc les gens, la crédibilité de ce discours est atteinte. Et ça redonne une vie à tous ces débats sur comment construire une autre société. Non.
Thank you. 46 pour la transition. Gobierno bolivariano.
On retrouve l'équipe du Monde Diplomatique avec vous, Maurice Lemoine, qui fait un article qui vient s'adosser à celui de Jeannette Appel sur la situation aujourd'hui à Cuba. C'est un retour en arrière, cette fois-ci, sur d'autres Cubains, des Cubains et Américano-Cubains, qui ont participé à peu près tous les coups tordus de la lutte contre le communisme au cours des 50 dernières années.
Oui, alors l'article n'est pas de moi, mais il est presque aussi bon. Non, c'est un article de notre excellent collaborateur Hernando Calvo-Ospina qui effectivement revient sur l'équipe de choc de la CIA. C'est une histoire folle, c'est quasiment un roman d'espionnage, c'est une histoire très très peu connue, c'est-à-dire en gros... Le rôle des Cubains anticastristes dans tous les coups tordus, les opérations de déstabilisation, d'assassinat, de renversement de coups d'État qui ont lieu en Amérique latine et même y compris ailleurs. L'histoire, elle démarre assez paradoxalement, d'ailleurs avant la révolution cubaine, elle démarre en 1953, lorsque deux personnages importants de l'administration américaine, John Foster Dulles, qui est secrétaire d'État, et puis Allen Dulles, qui est directeur de la CIA, les deux étant par ailleurs actionnaires de la United Fruit, qui est la grande compagnie bananière au Guatemala, décide de renverser le président en exercice, Jacobo Arbenz, parce qu'il a eu la mauvaise idée de lancer une réforme agraire qui a atteint partiellement d'ailleurs les terres de la United Fruit. Et donc la CIA, qui est d'ailleurs assez jeune, hein, elle est née en 48, va monter une équipe de choc. Hein, on est en 53, 54, et sous le nom de code de PB Success, va lancer une opération qui va se terminer par le renversement de Arbenz au Guatemala, pays qui va rentrer dans une zone terrible de décennies, de guerres, de massacres, etc. Et puis 59 arrive Fidel Castro à Cuba, qui évidemment d'emblée ne plaît pas forcément à l'administration Eisenhower à l'époque, donc Eisenhower donne le feu vert pour une opération contre Cuba, et dans ce projet Cuba, ça s'appelle projet Cuba, on va retrouver l'ensemble de l'équipe de la CIA qui avait renversé Jacobo Arbenz, et puis vont s'y joindre quelques nouveaux personnages, en particulier l'un qui est connu maintenant, qui s'appelle George Bush, qui est de la CIA.
George Bush Senior,
et puis retenez son nom, Porter Gross, qui est à l'époque est un officier de contre-espionnage des armées. Ça va déboucher sur la tentative de renversement de Castro par le débarquement dans la baie des Cochons, qui échoue. Et en 62, environ 300 Cubains anticastristes, qui ont quasiment tous participé à l'invasion de la baie des Cochons, reçoivent une formation d'officiers dans les académies militaires américaines, à Fort Benning, à Fort Gulick, dans la zone du canal de Panama, et ils vont devenir, d'une certaine manière, les cow-boys de toute l'Amérique du Sud. Et donc, on va les retrouver partout, parce qu'on va retrouver beaucoup de Cubains au Vietnam, qui vont entre autres participer au trafic de drogue depuis le territoire laotien, à travers une compagnie appartenant à la CIA, Air America. Et puis on va trouver de nouveaux personnages. Par exemple, le conseiller politique de ces opérations au Vietnam s'appelle John Negroponte. Là encore, retenez son, on va le retrouver...
En Irak.
On va le retrouver en Irak. Il est actuellement numéro 2 du département d'État, jusqu'à l'arrivée d'Obama. L'équipe, le plus grand succès de cette équipe, en fait, le plus spectaculaire, c'est en 67 en Bolivie qui va avoir lieu, puisque Félix Rodriguez arrive en Bolivie avec la vingtaine de bérets verts américains. C'est lui qui va poursuivre Che Guevara. C'est lui qui va être présent dans la région de Valle Grande quand Guevara est capturé, blessé. Et c'est Félix Rodriguez qui va donner l'ordre d'exécuter Che Guevara. Alors, malheureusement, cette équipe de la CIA, elle ne réussit pas à empêcher l'élection de Salvador Allende au Chili. Allende va être renversé.
Ils étaient aussi impliqués dans le coup d'État Pinochet contre Allende.
Oui, bien sûr. Hein. Donc, y compris aux États-Unis, ça va provoquer quand même beaucoup d'émoi. Il va y avoir des commissions d'enquête sur la CIA, et la CIA va avoir ses ailes quelque peu rognées. Bon. Et de ce fait, elle va déléguer une autre partie de son travail sale, et nous allons retrouver nos Cubains anticastristes. Et en particulier deux, qui s'appellent Orlando Bosch, et qui s'appellent Luis Posada Carriles, et qui, depuis le Venezuela, où Posada Carriles a été infiltré par la CIA au sein de la police politique vénézuélienne...
Un roman d'espionnage que vous nous racontez là.
C'est un roman d'espionnage, bien sûr. Mais c'est l'histoire réelle, ça fait des dizaines, des centaines, des milliers de victimes. Hein, et Posada Carriles et Bosch organisent l'attentat contre un avion de la Cubana de Aviación. Hein, donc les Cubains, 6 octobre 76, 73 victimes, et puis surtout organise également à Washington, sur le territoire américain, l'assassinat d'Orlando Letelier, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Salvador Allende, et qui était un petit peu le gouvernement en exil du Chili démocratique. À l'occasion de cet attentat contre Orlando Letelier, 5 hommes sont détenus. D'abord, l'enquête va être extrêmement difficile parce que la CIA fait obstruction. Dans ces 5 hommes, il y a 3 vétérans du projet Cuba. Ils vont être emprisonnés, ils vont être amnistiés par George Bush lorsqu'il sera devenu président. Le sens de que, bon, voilà, on est parti de 53, on est là déjà dans les années 90. Si je termine, parce qu'il faut terminer à un moment, où sont tous ces personnages? Eh bien, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, ceux qui ont fait sauter l'avion de la Cubana de Aviación, vivent, libres, tranquilles, à Miami. Félix Rodriguez, l'assassin du Che, entre autres, vit tranquillement à Miami et il est connu pour avoir dans sa maison deux trophées dont il est très fier, c'est la montre du Che et la pipe du Che. Negro Ponte, effectivement, est devenu le premier ambassadeur américain de, entre guillemets, l'Irak libéré. Puis ensuite, il a été pendant 20 mois super patron des services de renseignement des États-Unis et il est aujourd'hui numéro 2 des départements d'État. Et puis rappelez-vous tout au début de notre petite intervention, qui a été très courte mais qui quand même était assez longue, Porter Goss, qui donc en 60 était dans le projet Cuba, il a été de 2004 à 2006 patron de la CIA. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute une équipe, cette équipe de choc, elle a, pendant 50 ans, dessiné dans l'ombre les politiques américaines en Amérique latine. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, rappelez-vous ce qu'ils viennent raconter, ils ont commencé avec l'arrivée au pouvoir de Castro, ça veut dire qu'ils ont l'âge de Castro. Donc c'est une génération maintenant de vieux messieurs. C'est une époque qui va se terminer à la fois avec Fidel Castro et en même temps avec les anti-castristes. Qu'est-ce qui va se passer demain? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que la CIA, elle a traversé des périodes de haut et de bas. Hein. Je veux dire, elle a été épurée par Carter. Clinton a eu aussi à un moment une politique d'épuration de la CIA qui montrait l'implication de cette organisation, en particulier en Amérique centrale. Néanmoins, cette équipe, elle a traversé toutes les périodes. Elle a traversé toutes les périodes, je veux dire, par-delà la Chambre des représentants, par-delà le Sénat américain. Je veux dire, il y a à l'époque des règles, il y a l'amendement Bolland qui interdisent aux États-Unis de financer la Contra, d'armer la Contra, organisée par le vice-président, organisée au plus haut niveau par Reagan d'ailleurs. Cette équipe de choc va servir à contourner les politiques officielles américaines, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est un véritable déni de démocratie. C'est pour ça que c'est pas des bras cassés. Hein, Donc eux vont disparaître. La CIA, elle a connu des avatars. Elle a y compris sur l'Irak qui a été mise en cause, en voie de réorganisation. Mais jusqu'à présent, en tout cas, aucun président des États-Unis n'a réussi à avoir un véritable contrôle sur la CIA. Je crois que c'est la leçon surtout qu'il faut tirer de cette affaire.
See you later, cause your time is coming soon. I flip this shit like Pacino and it's your dark day afternoons. Attica, drug agents, you bring your statica. My alphabet will slash and they can flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of France Fanon. So stand at attention, devil dirge. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you clock pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last emperor KRS in history manifesting. Tomorrow the next lesson.
You claim I'm selling crack, but you be doing that.
They got a network for the toxic rock.
You claim I'm selling crack, but you be doing that.
Need I say the CIA be criminals in action? Cocaine crack unpacking, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars you were grabbing it. Only assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma you battling or losing fight. I choose the mic to recite, ignite light in the night. We should be. And President Clinton should delete him. It's not hard. The CIA simply has no more job. Who the enemy? Who's left? The NRA? The ATF? The AMA? Okay. It's all irrelevant. Cause in the new millennium, there'll be no central intelligence.
On continue ce parcours dans les pages du Monde diplomatique du mois de janvier 2020 avec vous, Alain Garrigou, qui avez signé la dernière page, politologue du Prince. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques vous-même et vous faites une attaque en règle contre eux comme étant des commentateurs tout juste au-dessus du niveau du café du commerce.
Oui, je crois qu'il faut citer des noms. La bienséance a des limites, il y a des moments... On peut parler des gens, oui, précisément.
Alors des noms.
Bon, d'abord, vous avez dit politologue. Alors, il se trouve que dans les universités, il y a beaucoup de gens comme moi qui ne s'appellent plus politologue, qui refusent le terme politologue, qui s'appellent politiste, sur le mode de political scientist. Et politologue, pour nous, c'est l'horreur. Ce sont ceux qui ont rendu leur âme aux médias. Premier cas, effectivement, c'est s'abriter derrière l'autorité de la science pour tenir des propos qu'après tout, n'importe quel citoyen ordinaire pourrait tenir, à bon droit.
C'est du commentaire.
C'est du commentaire. On n'est pas, par définition, un citoyen n'est pas obligé à une compétence extraordinaire et d'exhiber des diplômes pour parler de politique. La politique est la chose de tout le monde. Bon, on y dit beaucoup de bêtises. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, il y a des bêtises qu'on ne devrait pas dire abritées derrière une fonction, derrière une institution. Déjà, le premier point, ce serait quand on excipe d'une qualité universitaire, ce serait de ne pas dire d'ânerie.
Alors, vous en compilez quelques-unes d'ânerie ?
Oui, ben là, on peut faire un chapelet des bêtises, mais enfin bon, quand il y a une élection à deux tours, et puis qu'au deuxième tour, il y a deux candidats, on dit la France est coupée en deux, merci, mais la Palice n'aurait pas dit mieux. Bon, alors si c'est pour dire qu'il y a un fossé profond, parce que c'est 50-50, il s'agissait du Parti Socialiste, 50-50, il faudra qu'on me démontre que 50-50, il y a un fossé plus profond. On s'aperçoit que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de fossé profond parce qu'il y a 50-50. Alors, il y a des tas comme ça. Bon, ça serait peut-être d'ailleurs pas gentil de continuer, le chapelet des âneries. Ça, c'est grave. Bon. Deuxième point, quand des politologues parlent politiquement de la politique, ils ne parlent plus scientifiquement de la politique. Bon, Monsieur Calvi, par exemple, utilise les services d'un certain nombre de gens, à des émissions de télévision, sans mentionner leur proximité, mais organisationnelle, à certains partis politiques. Quand il s'agit de l'UMP, puisqu'il s'agit, alors il y a deux politologues que je peux citer, mais il y en a un, c'est manifeste, l'autre on le sait, c'est manifeste, M. Régnier est directeur de la Fondation pour l'innovation politique.
Dominique Régnier.
Voilà, Dominique Régnier. Cette fondation a été créée par l'UMP, donc il n'y a aucun doute, c'est pas un problème. Mais si vous voulez, à la limite, on pourrait dire pourquoi pas, mais qu'on le dise, ça n'est jamais dit, et si on cite la Fondation pour l'innovation politique, on ne dit surtout pas que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu cuistre, le think tank. Oui, à propos de pensée, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pensée, mais bon, on appelle ça comme ça. Bon, ça c'est le premier point. Donc, il y a une responsabilité journalistique, en l'occurrence, et il y a une violation de règles pluralistes. Le pluraliste, il ne trouve pas son compte. Deuxièmement, alors, les discours politiques sur la politique, c'est pas notre boulot. C'est ce que Weber appelait les petits prophètes appointés par l'État, par exemple, etc. Je veux pas dire qu'il s'agit pas de s'engager, mais quand on passe comme une sorte d'auxiliaire de la politique abritée derrière le vernis scientifique et qui n'y est pas, parce que franchement, les spécialistes se marrent, enfin, mes collègues se marrent, ils montrent comment, en étant finalement le plus éloigné des propos scientifiques, on obtient la meilleure reconnaissance dans ce pays. Puisque la présence médiatique étant une des manières de la reconnaissance sociale. Mais le mauvais exemple qui fait croire que plus on dit de l'ânerie, mieux c'est reçu.
Juste pour conclure et pour pas être injuste, parce qu'on a cité que Dominique Régnier, il faut citer quelques-uns des autres, sinon il va se sentir tout seul.
Absolument. Il y a d'autres cas. Roland Quayrol, par exemple. Alors, lui, c'est pour vanter la marchandise de sondagière. À un moment, chez M. Calvi, je crois avoir vu qu'il avait le record d'apparition. Là, en ce moment, c'est Dominique Régnier. D'ailleurs, entre l'article où je citais, d'ailleurs, la première version 18 fois, il a fallu corriger 19 fois. Et à la fin de l'année, c'était 21 fois. Donc, on a beaucoup de mal à les suivre, ces gens.
Leurs apparitions médiatiques.
Voilà. C'était simplement l'émission, c'est dans l'air. Alors, pour Roland Quayrol, je crois que c'est 2006-2007, c'était 35 fois. Bon, on sait très bien pourquoi. Il vendait les sondages CSA Opinion. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Alors, au moins, les consommateurs, les auditeurs, les citoyens méritent un peu de transparence.
Merci à tous. C'était dirigé de main de maître par Guy Van Ketil, toute l'équipe du monde diplomatique, Alain Grèche, Serge Halimi, Anne-Cécile Robert, ainsi que Jeannette Abel et Alain Garrigou et Maurice Lemoine. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org.
Vous pouvez réécouter cette émission et faire tous les commentaires que vous souhaitez. Le numéro du Monde Diplomatique de ce mois de janvier est en vente partout. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Sophie Moreno, Coyen Guyane et Raphaël Moutert ont réalisé génialement cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et quant à Agnès Lebot, eh bien Agnès attend vos messages au numéro du répondeur de la base J'y suis, qui est le 01 56 40 37 37.